Mais d'abord, Lise Ravary qui va nous parler poulet d'abord. Bonjour!
Salut!
Toi qui as des poules?
Ben oui, moi j'écoute, experte!
Hein?
Écoute, mais
es-tu capable de nous faire un petit bruit de poule? Très bien, très bien. Bon. Alors, on les aime vivantes le plus possible. Et si on les tue, on les aime dans notre assiette, mais on ne les aime pas euthanasier, nos poulets.
Ouais, exactement. Et ce qui se passe avec Exceldor, à mon humble avis, on est dans l'absurde du ridicule, du immoral.
De l'immoral, ouais.
Je veux dire, t'as tellement de niveaux à partir desquels tu peux condamner ce qui se passe là que c'en est sur la tête,
indécent.
C'est absolument, absolument indécent.
Ouais, ouais.
Un petit moment léger dans toute cette indécence. Hier, Caroline Saint-Hilaire, l'ancienne maire de Longueuil, elle a dit une pas pire. Elle a dit, c'est ça, on s'énerve pour 30 serres de Virginie sur la rive sud, qu'il faut pas les tuer, faut pas... pour 1 million de poulets...
Pas d'émotion.
On sent pas, là. Tu sais, il y a pas... Il y a personne qui dit « pauvre poulet », mettons.
Ben là, on commence à le sentir, là. Moi, j'ai honnêtement, il y a 2 jours de ça, là, j'ai pas mal pété ma coche, là, sur les ondes en début d'émission, là. Puis je veux rien enlever à Caroline Saint-Hilaire, mais cette image, cette comparaison entre l'indignation causée par l'euthanasie des chevreuils qui n'a pas eu lieu finalement, ouais, et l'euthanasie d'un million de poulets, c'est Isabelle Haché, la chroniqueuse de La Presse, qui avait d'abord évoqué cette comparaison.
Ah, OK.
Oui. Mais c'est pas grave, là. Je veux juste donner à rendre à César ce qui revient à César. Juste avant que tu continues, hier, j'ai fait une entrevue avec Jacques Roy, le président des travailleurs.
Bon. Je l'ai entendu.
Alors, pour les gens qui ne l'ont pas entendu, voici un court extrait de cette entrevue. Donc, c'est le représentant, président, du syndicat des travailleurs de l'usine. C'est 50, 60, 70 000 poulets qui sont euthanasiés, qui sont gazés à chaque jour. Est-ce que ça vous dérange, ça, vous?
Ben, c'est sûr que c'est dérangeant, mais on fait ce qu'on a à faire. D'autres, on essaye d'avancer avec l'employeur, mais il refuse d'avancer.
OK. Fait que vous, le fait qu'on gaspille toute cette nourriture-là, ça vous émeut pas plus que ça, là?
Ben, ça m'émeut pas plus que ça. Je sais pas quoi répondre à ça, là, mais je veux dire, on est là. Mais on demande d'avoir du respect dans notre usine, puis d'avoir des conditions de travail, puis d'être considéré à la valeur que l'on doit. Comment je dirais ça? Donc,
on a droit.
Valeur qu'on a droit, là.
Vous demandez une augmentation de votre salaire de 20 % pour la première année. La deuxième année, vous demandez combien?
Ben là, on n'est pas rendu là. Ça dépend si c'est que l'employeur va nous offrir.
J'ai eu beaucoup de réactions à la suite de cette entrevue-là. Et la majorité trouvait ça épouvantable, l'espèce de détachement puis la froideur avec laquelle il parlait de ça. Là. Mais j'ai eu aussi, je dois le dire, Lise, j'ai eu aussi beaucoup de réactions. Je dirais, sur l'ensemble des réactions, peut-être 20 % des réactions, des gens qui trouvaient que j'avais été trop dur avec le président du syndicat. Ils trouvaient que j'avais pas donné de chance ou j'avais pas insisté suffisamment sur le fait que le travail est dur puis que ce qu'ils demandent à travers les très importantes hausses salariales, c'est une reconnaissance puis une forme de compensation aussi pour des sacrifices qu'ils ont fait par le passé. Je veux être être transparent avec les auditeurs parce que s'ils m'ont interpellé, c'est parce que ça les a touchés. Alors je veux quand même le dire sur les ondes. J'ai reçu votre message et j'ai reçu la critique. Et puis, honnêtement, Lise, je suis capable de la prendre, la critique. Et puis, si j'ai été trop dur avec le monsieur, M. Roy, le président du syndicat, ben je m'en excuse. C'était pas ça mon objectif. Honnêtement, moi, ce qui m'anime dans ce dossier-là, c'est que je pense que c'est pas juste une question de conflit de travail. Je pense que c'est quand t'es rendu à tuer 1 million de bêtes en moins d'un mois, ça devient un enjeu de société. C'est pas juste un enjeu de relation de travail. Tu sais?
Non, c'est sûr que ça va plus loin. Puis c'est clair que M. Roy, il essaie de se tenir loin de ce sujet-là. Puis je l'ai écouté hier. Moi, je vais t'avouer, sérieusement, je trouvais à la limite qu'il faisait pitié.
Mais moi aussi.
OK. J'ai trouvé que... Mais tu sais, là, t'apprends que ça fait 13 ans qu'il est président du syndicat. Ça fait 42 ans qu'il travaille à l'usine. D'ailleurs, ça, ça m'a ouvert peut-être une petite porte de compréhension.
Ouais.
Peut-être qu'à force de travailler dans une usine d'abattage,
tu deviens
après 42 ans, tu deviens un petit peu plus insensible.
Ça se peut. Ça se peut, bon. Mais là, la,
t'sais, mais là, ça, c'est, là, non, faut, là, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça.
Là, là,
on peut expliquer, là, mais au-delà de l'explication, sauf que je pense pas que ça va aller ben plus loin que, en fait, ce que t'as fait de ressortir hier. Il refuse absolument l'arbitrage pour l'instant, parce que ça leur imposerait une solution peut-être qu'ils aimeraient pas. Puis c'est sûr que leur demande d'augmentation, c'est très élevé. C'est non seulement très élevé, mais c'est à peu près du jamais vu, 25% la première année. Puis je les comprends, ils ont laissé de l'argent sur la table en 2007. Je comprends tout ça. Mais la réalité, comme tu disais d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, les poulets, ben, on pourra plus se les payer.
Ben là, d'ailleurs, ça a commencé à monter les prix, là. Ça a commencé à monter. T'as vu ça, les reportages?
Oui,
les prix ont commencé à monter. Puis ça, c'est sans parler de restauration, de
chaînes
de restauration qui pourraient en manquer. Mais ça, à la rigueur, regarde, à un moment donné, c'est plate, là. C'est plate, surtout qu'on se déconfine. Me dis, t'as le goût de manger un bon poulet, là. T'sais, on peut-tu, Simonac? Mais bon. Mais c'est pas ça, moi, ma motivation première. C'est, tu sais, manquer de poulet, tu dis à la rigueur, on va manger du steak, on va s'organiser autrement.
Ouais.
Mais tuer des bêtes. Tuer des bêtes.
Hey, un million.
Un million de bêtes.
Hey, c'est pas écoute, rien. Je comprends. Pas, je comprends qu'ils n'ont pas souffert, là.
Non, mais c'est 4 millions de repas qu'on jette comme ça au vidange. 4 millions de repas. Je suis pas capable d'accepter ça. Je suis pas capable.
Écoute, je suis avec toi. C'est absolument, complètement inacceptable. Et c'est vrai qu'il faut que ce dossier-là, qu'on le regarde autrement qu'un dossier traditionnel, parce qu'il y a tellement plus de choses qui sont en question. Et c'est sûr que si le syndicat veut pas reconnaître l'aspect plus, comment dirais-je, peut-être un peu plus, je dis pas sentimental dans le sens de léger, mais c'est sûr que d'enlever la vie à une chose vivante, ben il y a personne qui aime
rien,
ça.
Pour rien,
à matin, pour rien, pas, en plus pour quelques dollars par semaine.
Je sais pas si t'as entendu un matin Paul Arcan qui faisait, il a parlé avec deux producteurs, puis ils étaient très touchants parce que
Il disait,
regardez, nous autres, là, notre fierté, là, il y a un monsieur qui disait, vous savez, être infirmière, c'est soigner les gens. Être médecin, c'est essayer de les guérir. Il dit, nous autres, notre vie, c'est de nourrir les gens. Puis il dit, là, actuellement, on n'est pas capable de les nourrir parce qu'on tue les poulets. On tue notre volaille qui sert à nourrir les gens. Et tu sais, tu sentais
ça. On tue le manger du monde.
Le manger, c'est exactement ça.
Écoute, puis le poulet, c'est une des viandes qui est encore accessible à peu près pour la majorité des gens, mais pour combien de temps? Tu sais, c'est pas du filet mignon. Les gens peuvent manger la plupart du poulet parce que c'est abordable, mais pour combien de temps? Moi, là, en tout cas, je veux dire, le monsieur hier... Moi, il m'a ouvert une fenêtre sur me rappeler que le syndicalisme au Québec a pas changé tant que ça, même si les centrales nous disent que c'est plus du tout comme autrefois, etc.
Ça...
Hey, je m'excuse, on est dans le gros rapport de force, les gros bras qui s'expriment par la bouche, c'est... Un jour, là, Bernard, est-ce qu'on va se sortir de cette mentalité du rapport de force?
La réponse est non.
Merci.
Ça n'arrivera pas. Mais par contre, non, parce que le rapport de force va toujours déterminer. Non, mais attends.
Non, mais ça arrive dans les pays nordiques.
Non, mais comment t'arrives à ce rapport de force? Ça peut changer. La fin, c'est le rapport de force. La fin, FIN. Mais le moyen pour arriver à ton rapport de force, ça doit changer. Le discours de la colère perpétuelle, de l'enragé, tu sais, le syndicalisme enragé à tour de bras avec ça, là, c'est fini.
Puis le syndicalisme du ressentiment, parce qu'on ressort des affaires
non.
qui ont été choquantes à l'époque, c'est vrai. Se faire couper sa paye, c'est jamais drôle. Mais comme tu disais, maintenant, c'est maintenant.
Et
il faut partir de maintenant pour.
Non, il faut qu'il s'ajuste.
En tout cas, écoute, moi, là, je suis, comme dirait l'autre, bouche labée. Je suis bouche bée devant ce conflit-là. Normalement, je serais du côté du syndicat. Écoute, premièrement, pas drôle de travailler dans un abattoir, hein? ça doit pas être la job la plus drôle au monde.
C'est dur, c'est dur.
Puis, regarde, je veux dire, dans le rapport de force, c'est toujours les patrons, ultimement, qui ont le plus gros rapport de force. Mais quand j'écoutais, là, M. Roy, puis je me disais, non, il faut qu'on apprenne à faire les choses autrement. Il faut, parce que ça, là, c'est un coup de semonce. 1 million de poulets, Seigneur, on va-tu réagir comme ça?
On continue, là. Il y en a aujourd'hui. Il va en avoir 50, 60, 70 000 qui vont être gazés aujourd'hui, là.
Ouais.
Non, c'est pas drôle. Vite, là.
Oui.
La CBC, qui, donc le pendant anglophone de Radio-Canada, qui fait une petite expérience, qui s'est un petit peu retournée contre elle. Résume-moi ça en une minute.
Bon, alors ils ont décidé, parce qu'ils ont à cœur le bien-être de leurs journalistes, ils ont décidé pendant 4 semaines de ne pas publier de commentaires à tout ce qui est nouvelles et informations sur le site de CBC.
Les commentaires des lecteurs, d'auditeurs, etc.
Parce que, ben écoute, comme tout le monde, les journalistes, même peut-être un peu plus que tout le monde, se font rentrer dedans, alors qu'ils ont dit, bon ben, ça suffit. Et aussi, il y a une dimension économique. De faire toute la modération de ces sections commentaires-là, ça prend un temps de fou, ça prend du monde, c'est très cher. Alors, peut-être un petit peu de ça en arrière.
Alors,
dans 4 semaines, ben, ils vont décider à savoir si on poursuit ou non l'expérience ou si on l'étend à Twitter, puis YouTube, toutes les autres plateformes. Mais moi, je pense que de couper la communication entre le site ou l'organisme de presse et le lecteur ou le consommateur de nouvelles, c'est peut-être la seule façon éventuellement de mettre de l'ordre dans le... Parce que les gens aiment ça répondre. C'est un match de ping-pong, hein? Alors, si t'arrêtes de jouer au ping-pong avec eux autres...
Le problème, c'est pas la réponse. Le problème, c'est le ton. C'est les mots utilisés.
Ah oui, non, mais c'est ça que je veux dire par
c'est
les...
Ça. C'est
exactement ça. Mais c'est une joute de ping-pong. Et le jour où t'arrêtes de jouer, ben l'autre, il est tout seul avec sa raquette ou whatever.
Avec sa méchanceté, avec
son ressentiment, avec tout ce qu'on entend.
Mais
sauf que si tu coupes l'accès entre le journaliste et son public, ben le danger, c'est que tu tues les réseaux sociaux.
Mais tu t'isoles. Parce que dans les réponses du public, on apprend beaucoup de choses. Le problème, souvent, c'est que il n'y a pas juste de l'information, il y a de l'insulte. Puis il y a une tonne de vacherie. Honnêtement, moi, j'ai...
Des menaces de mort,
Mais c'est ça. Alors, ce qu'il faudrait, c'est garder le lien avec le public, mais enlever du paysage les menaces, les insultes, l'intimidation et tout le reste. C'est là-dessus qu'il faut travailler, Lise. Mais je suis d'accord avec toi, il ne faut pas couper le lien. C'est sûr que ce qui est arrivé, c'est que là, les gens ont dit, « Hey, vous êtes financés avec nos taxes et nos impôts. Comment ça se fait que vous coupez le lien avec nous? » C'est pour ça que ça réagit très fortement. Mais comme tu dis, ça procède d'une bonne intention de protéger les journalistes qui se font bardasser pas mal par le public.
Et faire des petites économies.
Oui, voilà. OK, Lise.
C'est correct.
Oui, mais il faut faire attention.
Il faut faire attention.
Quand tu es une société d'État financée par le public, à un moment donné, il faut que tu restes accessible au public.
C'est pas la même chose qu'un réseau privé, non.
Lise Ravary, à demain.
À demain.
Après la pause, cette histoire d'horreur. Imaginez-vous quelqu'un qui entre dans votre maison, dans votre chambre de bain, dans votre chambre à coucher, et qui vous observe, et qui vous espionne, et qui fantasme sur les images qu'il voit. C'est cette histoire qu'on vous raconte après la pause.